Vous entendez un bruit étrange et apercevez quelque chose de terrible. Êtes-vous prêt à connaître la vérité? La chaîne télé, Témoin, c'est bon en crime. Débrouillé dès le mardi 9 avril.
Salut Mario, je te
le commandant.
Je te parle avec un verre de mousseux dans la main.
Mais comment ça? C'est pas vendredi?
Parce que, non, je viens tout juste de terminer mon dernier segment des francs-tireurs à vie après 23 ans.
Oh!
Je viens de terminer la dernière entrevue, le dernier segment. C'était fini, on a sorti le petit mousseux et c'est assez spécial.
Mais il faut te féliciter quand même pour une émission. Toi, t'as fait toutes les années, toi.
J'ai fait les 23 ans complets, tout à fait.
T'as changé de partner, mais t'as fait les 23 ans.
Exactement, les 23 ans avec presque la même équipe technique. Donc, je pensais à toi parce que, écoute, quand tu as terminé l'ADQ, c'était un aventure. Là, je ne vais pas faire un parallèle entre un parti politique et une émission de télévision, c'est plus important, un parti politique, là, bien sûr. Mais quand tu as décidé, bon, on accroche notre chapeau, c'est terminé l'aventure de l'ADQ, tu as un pincement au cœur?
Ouais, mais ce qu'il y a de commun aux deux aventures, c'est que c'est pas soi-même qu'on décide d'y mettre fin, là. Dans ton cas, c'est un réseau, dans mon cas, c'est un peuple, mais c'est pas soi-même qui décide, ça fait que... Hey, tu veux parler de l'IPAC?
Je veux dire un truc, là. Et là, je veux pas flatter mes boss dans le bon sens du poil. C'est absolument pas ça. Mais bon, visiblement, on a mis fin aux francs-tireurs de Télé-Québec parce que lorsqu'on regarde la programmation qui va être présentée, c'est une programmation de bien-pensants, gauche toute, mais mur à mur, complètement mur à mur. Et je regarde ça et je me dis, écoute, si c'était pas de Québécois, où on peut encore avoir des points de vue un peu plus, certains vont dire à droite, d'autres vont dire un peu plus conservateurs et tout ça. Écoute, mis à part Québécois, il n'y a pas grand place que tu peux avoir ce genre de point de vue.
C'est-à-dire au Canada anglais, oui, il y a une variété de points de vue.
Oui.
Mais en français, ouf.
Non, écoute, il n'y en a pas. Et écoute, c'est de la bien-pensance, c'est à gauche tout, en tout cas, bref.
Bon. Autre échec pour l'UPAC aujourd'hui. On peut pas dire qu'on est vraiment surpris. Ce sont les co-accusés de Monsieur Zampino, qui lui déjà avait été Frank Zampino, qui lui déjà s'était sorti de son procès.
Écoute, quel échec quand même l'UPAC. Là, en général, là, quand on va faire le bilan de ça, à un moment donné, c'est une joke. Là. À un moment donné, moi, quand je parlais de l'UPAC dans mon show à Cube, je mettais toujours la chanson thème, la musique thème de Benny Hill, parce qu'il y a quelque chose de grotesque là-dedans. Là. Mis à part Vaillancourt, écoute, et là, Mme Normando s'en est sortie parfaitement, elle retourne au 98.5, elle va faire de la radio et tout ça. Ça a donné quoi exactement, tout le temps mis dans les enquêtes, l'énergie? Écoute, une enquête là, pour amener des accusations contre quelqu'un, c'est des années, et ça a donné quoi, l'UPAC? Vraiment, il y a de quoi devenir extrêmement cynique.
Mais est-ce que ça se peut qu'à un moment... On se reporte, là, mettons, dans ces années-là, 2014-15, on venait de sortir de la commission Charbonneau, puis là, tu sais, tu disais, t'arrivais à sa place publique, puis tu disais, un chum, c'est un chum, puis la ville de Montréal, tout est pourri, puis tout le monde croyait ça, tout était pourri, puis, que l'UPAC a fini par se croire là-dedans, puis oublier que, tu peux pas partir d'une impression, c'est comme le président Trump, là, tu peux pas partir de l'impression générale, là, il y a eu de la fraude dans toute l'élection, il faut que t'arrives devant le juge avec des preuves qui ont été correctement amassées, puis t'es peut-être mieux de faire moins d'accusations, en tout cas, moi, t'es peut-être mieux de faire moins de spectacles, moins d'accusations, moins d'accusés à la limite, puis de t'assurer que t'as un dossier là qui est monté béton.
Parce que mais comment on dit, c'est quoi le proverbe, à un moment donné, en anglais, c'est you bite more than you can chew.
Ouais. Qui trop embrasse mal étreint.
Ouais, ou c'est ça, tu manges plus que tu peux digérer, en tout cas. Ouais. Les yeux plus grands que la panse. Voilà. C'est exactement ça. Ils ont eu les yeux plus grands que la panse. Ils ont dit, écoute, on va faire un ménage. De toute façon, les gens sont écœurés. Ils ont vu la commission Charbonneau. Ils sont cyniques. On va te ramasser ça. Sauf que, effectivement, c'est très, très long. Et c'est très difficile de prouver un complot. Une idée de complot, c'est extrêmement dur. C'est des années d'écoute électronique, de preuves amassées. Et tout ça, c'est pas facile.
Par contre, de dire que, regarde, les gens, les co-accusés et tout ça, je veux dire, mettons, ceux qui ont été libérés aujourd'hui, là, Ils étaient enquêtés, ils ont été perquisitionnés en 2016, genre. Donc là, quelqu'un est rentré dans leur maison à 6h du matin, il les a réveillés, le conjoint, la conjointe sort de la maison, on fouille dans tes affaires, ils leur ont pris leur ordi, etc. Après ça, ils ont été accusés l'année d'après. Ils sont en procès depuis 3 ans. Si on fait du fling-flang, là, qui sera jamais démontré par la cour, il n'y aura jamais de projet, mais mettons qu'il y a de procès, pardon, ils ont payé, là. Je veux dire, les 5 dernières années de leur vie, eux, l'UPAC, ils la trouvent pas drôle. Là. L'UPAC, ils l'ont eu d'impact. Mais s'il y a des gens vraiment honnêtes qui ont pas posé de gestes répréhensibles aucun, c'est écœurant ce qu'on leur a fait vivre pour des honnêtes gens. Puis si c'est des gens moyennement honnêtes, mais qui ont juste pas pu être condamnés parce que le travail de la policier a pas été assez bien fait, je suis quand même obligé de penser qu'ils ont payé un certain prix, même un prix certain.
Ben écoute, c'est sûr, s'ils sont pas arrivés à un moment donné à des condamnations et tout ça, c'est certain, mais moi je me dis, parce que ce que j'ai lu, écoute, je ne connais pas tous les détails de l'enquête, mais ce que j'ai lu sur l'affaire de Zampino, quand même, ça avait l'air assez solide, ça me semblait assez solide. Je me dis, s'ils sont pas arrivés à faire condamner ces gens-là, alors que le dossier me semblait assez évident, assez probant,
mais c'est parce qu'il n'y a pas eu de procès, Richard. C'est qu'il a été prouvé que dans la façon de travailler, les policiers ont fait des écoutes interdites, ont posé des gestes tellement irréguliers.
C'est sur des technicalités, finalement.
C'est ça, exactement. Et donc, le fond de leur preuve ne sera jamais analysé. Le procès n'aura pas lieu. Enfin, pour le public, c'est choquant, là.
C'est très choquant, tout à fait.
Richard, tu veux revenir sur un réalisateur de séries télé québécoises qui est contre la liberté d'expression?
Non, écoute, c'est que toute cette histoire-là autour de Mathieu Bock-Côté et le livre de Mathieu Bock qui est toxique, c'est rien qu'il y a un gars, je veux dire son nom, il s'appelle Raphaël Ouellette, OK, c'est un réalisateur de séries très, très en vue dans le milieu, qui a tout le temps de la job, des séries très regardées par les gens, donc c'est pas n'importe qui. Et il le dit sur Twitter, il était tout fier de ça. Il dit, lorsque j'entre dans les librairies et que je vois le livre de Mathieu Bock-Côté, je le prends puis je le cache. Je l'amène ailleurs puis je le cache pour que les gens ne l'achètent pas. Et là, je me dis, attends une minute là. Moi, j'ai jamais fait ça. Là. Rentrer dans une librairie, des fois, je vois des livres écrits par des gens avec qui je ne partage mais aucun point de vue. Zéro. Nul. Des gens de la gauche radicale et tout ça. Jamais l'idée m'est venue de cacher le livre pour pas qu'il soit acheté. Au contraire, moi, j'aime les différentes opinions, j'aime les bons. Mais lui, qui a cru que ça serait bien vu de sa gang.
Mais tu sais que c'est très, très... Est-ce là. Qu'il réalise des documentaires?
Il réalise des séries dramatiques.
OK, là. OK. Non, parce que tu comprends que s'il réalisait des documentaires, tu comprends son réflexe. Ça veut dire qu'il irait réaliser un documentaire, mettons, sur ce qui se passe avec les pêcheurs en Gaspésie. Ah, oui. Puis lui, il partirait avec une idée, mettons, que les pêcheurs, là, c'est des croches, puis ils dépassent leur quota, puis c'est des... Il part avec une idée. Et ça veut dire que si les faits viennent démontrer le contraire de son idée, tu comprends, si ça y plaît pas ce qu'il voit... Lui, il te dit qu'il ne mettrait pas au montage, là.
Ben, écoute, ce que Michael Moore, le fameux réalisateur de documentaires aux États-Unis, là, très de gauche, fait tout le temps, mais régulièrement, tu sais, il fait ça. Y a-tu encore des gens qui croient à l'objectivité de documentaire, là, tu sais?
Choisir ce qu'il faut pas que le public voit. Ce qu'il faut cacher au public, ce qu'il faut enlever.
Il faut cacher, mais non, mais les autres se voient même pas comme un censeur, parce que quelqu'un, il a dit, t'es un censeur, il a dit non, je suis un résistant. Tu comprends, ce gars-là voit sa job là, comme...
C'est la pensée communiste profonde. Là. C'est comme ça. Les régimes communistes, là, ils disent pas qu'ils empêchent... Mettons, en Chine, ils disent pas qu'ils empêchent le journalisme. Là. Ils disent juste qu'il y a des journalistes malhonnêtes qui voudraient déstabiliser le régime en le critiquant, en sortant toutes sortes d'histoires à propos du régime, en dénonçant une décision du gouvernement. Oui. Ils disent pas qu'ils sont contre la liberté d'expression, du tout. Ils disent qu'il faut qu'ils mettent un encadrement parce qu'il y a des journalistes malveillants qui voudraient détruire le système.
Lui est fier de ça, puis il le dit sur Internet en disant dans sa tête, ben ma gang va aimer ça. Et effectivement, si c'est pas que moi, j'aurais honte de faire ça. Écoute, rentrer dans une librairie, cacher ça, s'il le faisait, je m'en vanterais pas. Mais lui s'en vante parce qu'il sait fort bien que dans son milieu, les gens vont l'applaudir, ils vont aller le voir en disant bravo Raphaël, c'est ce qu'il faut faire, tu es un héros pour nous. Et ce gars-là, il n'a aucun problème à se trouver des jobs, là. Il réalise des séries partout, il est bien en vue, etc. Alors que les gens vont savoir ça, il y a des producteurs, il y a des auteurs, ils vont savoir ça, que ce gars-là rentre. Moi, j'aimerais ça voir ces séries en disant, ah, t'as une scène là où le bandit, c'est un noir, raciste, Si ton, si ta série sort en DVD, je vais rentrer chez Archambault, je vais prendre le coffret DVD puis je vais le cacher pour pas que les gens voient ta série. Ouais, non, c'est ridicule. Mais lui se vante de ça et je suis convaincu qu'aujourd'hui, dans sa gang, il passe pour un héros. C'est fort, là.
Mm-hmm.
C'est déprimant, là.
Eh bien, finalement, Nasdaq qui veut obliger les entreprises à montrer un visage de diversité sur leur conseil d'administration.
Oui, un texte du Wall Street Journal, dont Nasdaq, c'est pour rien. C'est une, la bourse de la Nasdaq veut forcer toutes les
entreprises. Mais c'était dans les nouvelles économiques aujourd'hui, là. C'est une vraie nouvelle.
Ben oui, c'est ça. Si t'es sur Nasdaq, tu vas devoir avoir, montrer patte blanche, excusez là, l'expression, mais tu vas devoir avoir une femme sur ton conseil d'administration et une personne d'une minorité. OK? Sinon, tu pourras pas être à Nasdaq. Moi, la discrimination positive, je n'y crois pas. Pour moi, c'est un oxymore. Un oxymore, c'est deux mots qui se contredisent. Comment une discrimination peut être positive? Elle discrimine. Le mot le dit. Une discrimination discrimine, c'est-à-dire qu'elle juge les gens selon la couleur de leur peau. Comment une discrimination peut être bonne? Selon moi, il n'y a pas de discrimination positive, ça n'a pas de sens. Alors là, ils vont peut-être écarter les entreprises. Puis là, je pense qu'on est qu'en 2020. Je pense que toutes les entreprises sont ouvertes. Peut-être qu'il y en a une gang de récalcitrants, là, mais il y en a qui sont vagues, qui savent qu'ils doivent représenter les minorités, la diversité, etc. Mais les quotas, là, il y a des gens aujourd'hui qui peut-être pourraient siéger sur un conseil d'administration, mais ce ne sont pas des femmes et ce ne sont pas des gens de minorité sexuelle ou raciale. Ils n'auront pas la job. Ça me rentre pas dans la tête. Moi, je connais un gars qui voulait être policier. Il avait des super bonnes notes. OK, ça marchait au bout.
Non, mais là, c'est le Nasdaq. C'est le Nasdaq qui s'autodiscipline, non?
C'est le Nasdaq, oui, qui demande, en fait, qui demande la permission de pouvoir le faire. Hein. Il demande la permission de pouvoir faire ça, mais si tu refuses de faire ça, tu ne pourras pas être coté Nasdaq. Ben, tu sais, c'est quand même fort, là. Je comprends là, la diversité de tout ça. Et je lisais aujourd'hui dans le National Post aujourd'hui les nouvelles directives de Téléfilm Canada. Si tu veux avoir de l'argent de Téléfilm Canada puis tu produis un film, tu dois montrer justement là, que tu vas avoir la diversité sexuelle, raciale et tout ça. Mais qu'est-ce qui arrive avec les films historiques? Je comprends, là, mais tu sais, là, si tu fais mon oncle Antoine, ça va être mon oncle Antoinette, ma tante Antoinette. C'est comme, il va avoir, maintenant, tu vas te retrouver, si tu fais un film sur, je sais pas, la Nouvelle-France, tu vas devoir mettre deux gays et trois noirs. Et à un moment donné, il y a des producteurs, il y a six producteurs qui sont interviewés dans la National Post qui disent, ben là, ça n'a pas de bon sens, des quotas comme ça, là. Mais on peut-tu aussi avoir le droit d'une certaine liberté créative? C'est parce que c'est une drôle d'époque.
Merci, Richard.
Merci à toi.